Les brebis noires de Léo Ferré. Premier portrait, Salah Alhamdani. Nous sommes le 11 août 2021 et je reçois à dîner ce soir le poète irakien Salah Alhamdani, né à Bagdad en 1951. Il est accompagné de sa femme Isabelle, poétesse et écrivaine. Le temps d'un repas, Salah me raconte sa rencontre avec l'œuvre de Léo Ferré quand il est arrivé en France.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça y est, nous sommes bien arrivés.
Ouais, vous avez trouvé, nickel, bravo.
Ouais, j'ai vu la camionnette jaune. J'ai un œil, d'aigle. Ton histoire à toi, et ta manière d'aborder le texte ou la musique de Léo Ferré, c'est marrant. Donc je suis plus vieux que toi, plus ancien, parce que moi j'ai découvert Léo Ferré en 75. À l'époque, j'étais dans le nord de l'Irak, commando, envoyé par les régimes de Saddam Hussein. Et c'est là où je me suis révolté contre le régime. Parce que j'ai vu qu'on amène des enfants hébergés kurdes dans les camps militaires et on les torture à la recherche de leurs parents. Quand j'ai appris ça, j'étais jeune, hein, tu vois.
Ça devait être quand tu avais 20 ans.
Ici. Oui, 20 ans, c'est ça, 20 ans, tu vois. Mm-hmm. Un jeune... bagdadien dans le nord de l'Irak, donc c'est chez les Kurdes, et les Kurdes, toujours pour moi, c'est les gens du nord. Tu vois, et ils parlaient une autre langue, ils avaient une autre civilisation, une autre culture, mais ils parlent irakien aussi parce que la colonisation arabe n'a pas lâché les Kurdes depuis, comme elle n'a pas lâché les berbères, comme la culture arabe, c'est le bordel total. Ils dominent pas mal, beaucoup de blagues, beaucoup de populations, etc. Mais je parle tout ça parce qu'il y a, une relation quelque part plus tard avec Léo Ferré. Parce que donc je me révolte, je libère le Kurde, il trouve qui était derrière la libération de ses enfants. Et j'ai créé un groupe contre le régime. Enfin, j'étais militant, quoi, j'ai réagi. Je n'avais pas un parti politique, je n'étais pas Che Guevara, ni, tu vois, poussé par Marx, ni Lénine, ni personne. Ni Castro, ni personne. J'étais juste un enfant de Bagdad. Il se trouvait dans un camp militaire. Il a entendu des enfants qui pleurent et il a dit, je vais le libérer. C'est juste une certaine réaction contre l'insupportable. Tu vois, c'est quelque chose, tu dis, non, ça ne va pas. Et c'est comme ça que donc, j'ai atterri en prison, torturé, etc., disparu. Et j'ai découvert la poésie en prison politique parce qu'il y a quelqu'un qui chuchotait la nuit des textes et moi je ne comprenais rien, mais je trouvais que c'est très beau. C'est exactement mon rapport avec Léo Ferré plus tard. Et c'est ce monsieur, enfin un homme comme moi qui était prisonnier. Et je suis un jour, je suis allé vers lui et je lui demandais, mais qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu chuchotes? Et il m'a dit, c'est des poèmes. J'ai dit, poèmes, ça veut dire quoi? Bah oui, je sais pas. Et c'est commencé comme ça avec la poésie. Il m'a dit, mais tu sais pas. Et donc là, je lui ai dit, mais moi j'aimerais bien écrire comme toi. Il m'a dit, tu peux? Toute personne qui a des sentiments, il peut écrire des poèmes. Voilà, la leçon première pour moi, c'était ça. T'imagines dans les prisons militaires où on est torturé, censé être fusillé à un moment ou l'autre, c'était pas facile, ce n'est pas des choses. Pensable, personne ne va chercher un papier pour écrire un texte. Donc j'écris mon premier poème.
En prison.
En prison. Et je ne savais rien. Je savais à peine lire et écrire. Et donc, une fois que ça a fini, j'étais condamné, ils m'ont foutu dehors l'armée, et je me suis trouvé à Bagdad.
Ça a duré 8 mois, là, la carcération.
8 mois, les prisons.
8 mois de prison,
ouais,
quand même.
Ouais, ouais. Perdu. Je ne sais pas où j'étais. Hein. Et à Bagdad, mes parents ils ne voulaient pas de moi. Enfin, mon père il ne veut pas m'accueillir à la maison. Ce qu'il m'a dit, les milices, ils ont fait leur boulot déjà, les fachos. Ils ont commencé à dire, oui, je travaille avec les Zionistes, avec les États-Unis, je suis un traître, etc. Et dans mon quartier, là où je suis né. Donc mon père, il n'a pas voulu de moi. Et je me suis trouvé... dans une petite maison avec une ancienne prostituée. Ouais, la poésie amène souvent à la... Vous trouvez des prostituées. Je dis, comment je t'appelle? Elle me dit, tragédie.
Comment on dit tragédie en arabe?
Ma'sa. C'est terrible, c'est quelque chose... Appelle-moi Ma'sa. Donc moi, j'étais pressionné par cette personne. Elle a gardé mon livret militaire. On ne me fait pas de problème. Et là, j'ai toute une histoire dans les cafés de Bagdad où j'ai commencé à faire n'importe quoi pour vivre, travailler, écrire des courriers, des lettres d'amour pour des enfants de bourgeois. Ce qui est intéressant à l'époque, c'est que beaucoup de lecteurs, des gens qui ont les moyens, achètent un livre, ils les lisent et ils l'abandonnent dans les cafés. Ça, pour moi, je n'ai jamais vu ailleurs. Et j'ai découvert un livre qui a bouleversé ma vie jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce livre, je crois qu'il m'a envoyé directement vers Léo Ferré, « Le mythe de Sisyphe » d'Albert Camus. Quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'a pas à l'université, qui n'a pas un certificat d'études, j'ai trouvé ce livre, je ne connais pas le mythe en arabe, Sisyphe encore moins, et Camus encore moins.
Ben oui.
Donc, voilà. Donc je ne connais rien de ce livre, je le prends, c'est quoi ? Je l'ai amené dans ma petite chambre. Génial. Alors là, j'ai découvert ce qu'il voulait me dire, Albert Camus.
Alors moi, j'ai commencé à lire, je n'ai pas encore compris. Je commence. Hein.
À un moment donné, j'avais l'œuvre complète de Camus, L'étranger, la peuse, voilà, toutes les chutes, voilà, tout en arabe. Fin 74, là où j'ai commencé réellement recevoir des menaces et recevoir des gens qui me disaient qu'il faut que je quitte Bagdad parce que je vais être assassiné. Je dois aller au pays de Camus. C'était vraiment ça. Hein? Je ne connaissais rien de la France. C'était impossible à une personne comme moi pense voyager et venir en France. En général, c'est la bourgeoisie, les gens qui ont les moyens. Moi, je n'avais rien. J'avais Camus et c'est tout. Et quelques poèmes. Et donc, voilà, je suis arrivé à Paris avec une adresse d'un Tunisien qui est à Bagdad, qui m'a donné, oui, et mon sac de soldat. Et c'est une adresse qui était cousue dans les
boches
à l'intérieur du sac, au cas où le service de renseignement il le trouve. Inscrit à Paris 8, et je rencontrais donc par le Tunisien, il y a quelqu'un qui s'appelait Zouzi Chabi, un philosophe tunisien qui donnait des cours à Vincennes. Il avait une relation avec une fille qui s'appelait Danielle Roland, qui s'était séparée. Et un jour, je me suis trouvé chez Danielle, qui est devenue plus tard ma femme, que j'ai un enfant avec elle aujourd'hui, qui a plus que 40 ans, 4 ans, Carmel, dans le Marais, à Paris 5e. Et je me suis trouvé avec un groupe de personnes, de professeurs, des étudiants à l'époque. Hein, il y avait Giscard, donc la gauche était beaucoup plus. Son mouvement beaucoup plus dans la société que ça se voyait.
Après 68,
que dans
la, quoi.
Ah ouais, d'accord.
Après 68. Une atmosphère particulière. De...
Voilà, et je me suis trouvé donc dans un appartement où tout le monde parlait français, on fumait tout. Je me suis mis dans un coin et Daniel a mis un disque de Léo Ferré. Et c'était, je vois, toi, La mémoire et la mer. Et là, je ne comprenais rien. C'est comme en prison. J'étais seul, peut-être il y avait une quinzaine de personnes. Je ne comprenais rien. Et voilà cette voix de Léo Ferré qui m'a, j'ai chialé, mais je comprenais. Tu vois, c'est comme l'autre, il me dit, je lui dis, c'est quoi un poème? Moi, j'aime ça, il me dit, un poème. Tu peux écrire un poème. Et quand j'ai écouté Léo Ferré, à ce moment-là, toute cette démarche, tout ce parcours, tout ce traversé pour arriver à ce moment-là, où il y a une grâce, quelque chose qui m'a bouleversé, qui m'a donné des ailes, quoi. Camus, il m'a donné cette force de venir à Paris. Et voilà, j'écoute un homme que je ne connais pas. Je ne connais pas son histoire, ni sa langue, ni ce qu'il disait. Et j'ai commencé à pleurer. Et Daniel, elle commence à dire à ses amis arabes, tunisiens, qu'est-ce qui lui arrive, ce jeune homme? Pourquoi il pleure? Oh, il me dit, c'est un poète, un irakien. Mais il leur dit, mais il ne comprend pas Léo Ferré. Et on dit oui, mais c'est pas, il pleure. Le temps passe. Avec Danielle, elle devient ma femme. On fait un enfant. Elle me dit reste à la maison. Et je me suis trouvé dans à Paris, à Nation, rue des Ormeaux, où c'est une fenêtre. Quand j'ouvre la fenêtre, elle donnait sur un immeuble énorme. Et ma fille Carmel, elle avait 3 ou 4 ans. Et moi, j'ai l'œuvre complète de Léo Ferré, pratiquement. Et je mettais Léo Ferré et j'ouvre la fenêtre, mais très très fort le matin, pour emmerder les gens, quoi. Et Carmel me dit, papa, c'est qui chante? Je dis, c'est ton grand-père. Donc le temps passe. Je divorce avec Danielle. Je commence à faire du théâtre. Je rencontre une femme qui s'appelait Elisabeth, qui est d'origine espagnole, catalane. Et elle voulait faire des études. Et nous, on avait un enfant ensemble, elle et moi. Et moi, j'étais un acteur chômeur, quoi, à l'époque. J'ai travaillé un peu partout, j'ai retapé des maisons. Hein. Donc, j'ai laissé tomber tout l'écouté théâtre, affiches dans le métro, machin truc. Je suis allé avec mon bouc, aller devenir brancardier au CHU de Bicêtre. Et un jour, il y a une surveillante dans le brancardage, elle dit « J'ai Léo Ferré, qui prend Léo Ferré ?» Tu sais, on était une dizaine de brancardiers. Et moi, je dis « Léo Ferré, mais... moi, madame !» Ça passe chez le brancardier, Léo Ferré n'a rien à foutre, c'est pas leur truc. Et elle me dit, bon, voilà, tiens, c'est Léo Ferré, tu l'amènes au scanner. Je prends Léo Ferré. Je dis, c'est pas vrai, c'est pas lui. J'arrive à la porte, je frappe. Putain, j'étais en blouse blanche. C'est pas possible. Il faut que ça arrive à moi, quoi. C'est lui-là qui m'a fait chialer toute ma vie. Et j'ouvre la porte et je vois Léo Ferré assis sur une chaise roulante, comme ça. Et sa femme, assise sur le lit. Il n'y avait personne, il n'y avait rien. C'est Léo Ferré.
Donc c'était dans les années 80... Non, 90.
90,
c'est
lui mort en...
Juste après. Donc je suis allé vers lui et je lui dis « Est-ce que je peux t'embrasser ?» C'est, je crois que c'est ça qu'on doit faire.
Ben oui.
Qu'est-ce que tu peux faire? Et lui, il était tellement rayonnant, il me regarde, il me dit, mais bien sûr. Alors, il regarde sa femme, un brancardier qui veut t'embrasser. C'est banal. Donc je l'embrasse. Il me dit, mais pourquoi tu m'embrasses? Tu veux m'embrasser? Tu me connais? Et je lui dis, j'ai traduit avec le temps en arabe. Il me dit, pardon. Ils se regardent entre eux, tu vois. Il dit oui. Depuis toujours, je suivais ta voix. Je ne te connais pas, moi, personnellement. Je suis devenu brancardier, je suis acteur, j'ai écrit des livres, mais malheureusement, tout ça. Donc je l'amène au scanner. Et du chemin, on parle. Je le couvrais, tout ça. Donc, je l'amène. Et je n'ai pas quitté la journée, j'ai laissé au scanner. La surveillante, parce qu'on t'a laissé le téléphone, tu vas chercher un autre, tout ça. J'ai dit non, non, moi je ne peux pas. Elle me dit, monsieur Lamdani, comment ça se passe? J'ai dit, écoutez, désolé, je ne peux pas bouger d'ici. Je ne vais pas, j'attends. Donc j'attends, Léo Ferré fait son scanner. Et il me trouve, c'est toi? Je dis, oui, je pars. Je ne lui ai pas dit comment ils vont me faire chier les autres. Je lui ai dit, oui, t'inquiète pas. Alors. Je l'ai amené dans le chemin. Donc, 2 ou 3 jours après, je reviens dans la chambre, je l'amène pour d'autres choses. Il m'a dit, écoute, Salah, il a pris mon prénom, il m'a dit, viens avec moi. Je vais en Italie. Comme ça. Il m'a dit, viens vivre avec moi.
C'est vrai?
Ah oui? Et je lui dis, mais moi, je ne peux pas venir vivre avec toi. J'ai mon enfant et ma femme. Je suis venu travailler pour faire nourrir la famille.
Il est mort après.
Ça s'est terminé comme ça. Ouais. C'est un homme généreux.
Ouais,
il
dit,
merde, qu'est-ce qu'il fout un poète pour encarner et tout. Je crois qu'il peut voir une mentalité de révolté. Et c'est quelqu'un insoumis. D'un coup, il dit, merde, c'est un type... qu'il est en train de nourrir sa famille, il m'aime, Et c'est un amour, c'est une histoire d'amour. Je l'amène avec moi, le sauver, quoi. Voilà l'histoire. Wow. Hein.
Tu la réécoutes régulièrement ou pas cette chanson?
Moi j'ai toujours sur mon portable. c'est que jamais, quand dans la voiture on le met, moi, je suis bouleversé. Il y a d'autres chansons, bien entendu, mais cette chanson a fixé ma vie définitivement.
Ouais.